au sein de notre fédération d'église, donc du comité de réflexion théologique. Et j'ai une responsabilité également au sein du comité de la formation continue de nos pasteurs, qu'on appelle le comité de l'école pastorale. Et donc la dernière session portait sur la question du burn-out et de sa prévention, notamment pour les jeunes générations, ce qu'on appelle aujourd'hui en tout cas la Gen Z, c'est-à-dire ceux-là qui sont nés autour, on va dire, du tournant de l'année 2000, 98 plus précisément, on va dire 2008 par là. Cette Gen Z qui a déjà vécu pas mal de choses difficiles, ils sont nés dans un monde qui va très rapidement, ils sont nés dans un monde où les repères d'autrefois structurants et structurels de la société, ce qui faisait consensus, a été complètement balayé par les philosophies de la déconstruction et par des idéologies nouvelles. Ils sont nés dans un monde un peu désenchanté où celles et ceux qu'on appelle les baby-boomers et qui ont été malmenés par les médias ces derniers temps et un peu culpabilisés, en tout cas ils n'ont pas connu, comme cette génération d'une certaine façon du point de vue de l'emploi, on va dire, les mêmes sécurités. Ce sont eux également qui sont le plus touchés par cette angoisse quant à l'avenir du climat, à l'avenir de la planète. Ce sont eux qui ont aujourd'hui 25 ans et qui sont de plein fouet pris par la question du sens, qui ne veulent plus forcément s'inscrire dans des trajectoires prescrites. Papa tenait une boulangerie, je vais être boulanger. Papa était garagiste, je vais être mécanicien. Papa était notaire, je vais reprendre l'étude. Dans la famille, il y a des médecins, il nous faut un médecin. Nous sommes une grande famille protestante de tradition avec des pasteurs sur plusieurs générations. Donc, il nous faut un pasteur. Cette génération sort de cette trajectoire donc, sociale, de ses représentations, et cherche continuellement le sens du travail, le sens de la vie, le sens de l'argent, le sens de bien de choses. C'est une génération qui s'écoute beaucoup, peut-être un peu trop aussi. Parce qu'à force de s'écouter beaucoup, elle s'inquiète aussi beaucoup. À juste titre par moment, mais en même temps, elle est fatiguée de devoir continuellement penser et repenser sa propre trajectoire de vie. Il y avait dans une société prescriptive quelque chose de stable. Il y avait une certaine façon dans l'ordre social des repères permanents sur lesquels on pouvait s'appuyer et construire sur ce que d'autres nous ont laissé. Et aujourd'hui, à force de s'écouter soi-même et à force de devoir tout réinventer et de tout vouloir réenchanter par soi-même, c'est une génération qui est plus confrontée donc au burn-out, à l'épuisement. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas quelque chose qui atteint les paresseux, ce n'est pas quelque chose qui atteint ceux qui se la coulent douce. C'est la crise du sens, c'est la crise aussi du don de soi, peut-être du mal-don, du mal-donné. Et ça vient faire souffrance dans nos jeunes générations, mais ça n'épargne pas non plus les générations Y dont je suis, et non plus les générations X dont plusieurs d'entre vous vous êtes. C'est dans ce contexte et en réfléchissant à l'approche de l'épuisement et de la souffrance mentale ou psychique, ce n'est pas mon rayon, alors vous m'excuserez de l'approximation de l'expression, que j'ai voulu partager avec ces jeunes pasteurs. Cette méditation que je propose de partager avec vous ce matin, tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Je la partage avec vous parce que je crois que ce qui a été partagé là, dans un contexte de formation, peut être partagé ici, dans un contexte plutôt, on va dire, de méditation, de la parole, de manière beaucoup plus allégée, bien entendu. Il s'agit, en Matthieu chapitre 11, d'un passage qui se situe entre deux discours de Jésus, Pour celles et ceux qui participent aux soirées d'Antoinus, vous avez maintenant la structure de Matthieu et des cinq grands discours. On a vu il y a quelque temps le deuxième grand discours dont Matthieu 10, l'envoi des disciples en mission. Et on a vu mercredi dernier le troisième grand discours, les paraboles, Matthieu chapitre 13. Et dans cet entre-deux, il y a les chapitres 11 et 12, et nous allons considérer le chapitre 11 en partie. Dans ce chapitre, il est question de Jean-Baptiste et de son sort malheureux. Et nous allons voir comment ce qu'il vit n'indiffère pas Jésus, ne laisse pas Jésus indifférent. Et qu'est-ce que ça peut venir dire à nous tous, pas seulement à la génération Z, mais à nous tous qui sommes confrontés parfois à la question de l'épreuve, de la souffrance, de l'isolement peut-être même en nous-mêmes. Nous lisons la parole du Seigneur. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, de la part de Jean-Baptiste, es-tu celui qui devait venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Au moment où se situe ce passage, Jean-Baptiste est donc en prison depuis près d'un an. Il est enfermé dans la forteresse de Machaerus, qui surplombe la mer Morte. Lui qui avait passé toute une vie dans un ministère, j'ai envie de dire, de grande liberté. Lui qui allait et venait un peu de manière insaisissable comme le vent. Lui, le prophète du désert. Lui, la voix qui crie dans le désert. Librement, est ici, isolé, éprouvé, d'une manière par ailleurs injuste. Jean-Baptiste, qui prêchait au milieu des foules, est isolé, privé de liberté, et le seul lien qu'il peut avoir avec l'extérieur dorénavant passe par la médiation de quelques amis fidèles, de disciples qui sont à ses côtés et qui peuvent lui rendre visite et qui lui apportent des nouvelles. Alors, le texte que nous avons lu ne nous dit pas quel type de nouvelles les disciples lui apportent, mais on pressent en creux que les disciples lui parlent quand même de ce qui se passe à l'extérieur et notamment de ce qu'ils entendent à propos de ce Jésus. Et en fait, il faut se rappeler que quelques chapitres plus tôt, Matthieu nous a écrit que lorsque Jésus apprit que Jean-Baptiste avait été arrêté et jeté en prison, Jésus quitta la Galilée. Jésus, plutôt, se retira en Galilée et il ne resta pas à Nazareth. C'est au chapitre 4, verset 12. Cet événement n'est pas anodin parce qu'il va venir marquer en quelque sorte un passage de relais, mais d'une manière inattendue. Souvenez quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, à un moment donné, ses disciples, l'auteur nous dit, les disciples de Jean virent que Jésus baptisait beaucoup plus que Jean. Et le texte ajoute, non pas Jésus, mais ses disciples. Et Jean dit à ses disciples, il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. Il faut qu'ils prennent plus de lumière de plus en plus et que moi, j'entre de plus en plus aussi dans l'ombre. Mais Jean n'avait pas imaginé de quelle manière est-ce que ceci s'opérerait. Et ceci s'opère d'une manière inattendue pour lui, puisque Jean est cette voix de justice qui interpelle ce précurseur qui a interpellé un puissant, qui a interpellé le politique par exemple, sur un abus de pouvoir. toute ressemblance avec le contexte actuel est fortuite. Je fais juste la petite parenthèse pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore passé aux urnes, vous devez le faire cet après-midi. Bon, en tout cas, je vous encourage à le faire. Ça, c'est votre droit, mais également votre devoir. Je tourne ma langue cette fois parce que j'ai failli aller sur une pente glissante. Je résiste. Jean-Baptiste, en tout cas, ne savait pas comment cela allait se passer. Il se retrouve jeté en prison injustement. Il est isolé injustement. Au début de mon ministère comme pasteur donc dans la région de l'Orléanais, j'avais entre autres la responsabilité d'aumônier adjoint au centre de détention de Châteaudun. Je suis rentré plusieurs fois en prison, je suis sorti, Dieu merci, parce que moi j'allais volontairement. Et j'ai rencontré des personnes qui avaient pris des longues peines aussi pour certains. J'ai rencontré des personnes récidivistes, des personnes brisées, pour certaines isolées. Et un certain nombre de ces personnes, j'ai même rencontré des personnes chrétiennes, converties même avant, mais qui se sont retrouvées là par une faute ou par une faiblesse. Ce qui m'a frappé constamment, c'est le besoin que ces personnes avaient d'être assurées de l'amour de Dieu. C'est l'image complètement détruite qu'elles avaient d'elles-mêmes. L'image complètement abîmée par une culpabilité objective. Elles n'étaient pas en prison, pour la plupart en tout cas, ce que j'avais rencontré, de leur propre gré, à part le personnel administratif qu'on peut côtoyer quand on est en aumônerie, les SPIP et autres, services pénitentiaires, mais elles étaient là à cause d'une faute objective que la société avait sanctionnée. Et ce qui me frappait également, c'est qu'elles attendaient toutes avec une certaine... comment j'ai envie de dire, impatience, notre culte mensuel du dimanche. Une fois par mois, on allait une vingtaine à la prison, je prenais ma guitare et d'autres aussi, et on chantait, et on lisait l'évangile, et on priait avec ces prisonniers. Et nous étions, aux côtés peut-être de leurs familles et amis que je ne rencontrais pas, un lien avec l'extérieur, un lien avec une communauté qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, mais qui priait pour eux. Je me réjouis de ce que ce ministère que j'ai eu, c'est un ministère que beaucoup d'églises vivent, et ici parmi nous, je veux profiter de cette occasion pour remercier Hélène Van de Venter qui a répondu à l'appel de l'aumônerie aux prisons, avec le soutien bien sûr du conseil et de son pasteur. Et je crois, Hélène, que dans quelques jours, alors qu'on va célébrer Pâques librement, je crois que tu vas avec une équipe pour vivre un culte. Est-ce que tu veux, à ce stade, nous dire un mot sur peut-être ce ministère, Hélène ? Tu n'étais pas prévue, mais tu peux prendre un micro. Ah, il est là. Voilà.
Non, mais c'est juste une super opportunité, quoi. J'attendais ça depuis longtemps, parce que je faisais de la correspondance avec des prisonnières. Et j'attendais ça depuis longtemps. Et puis après, quand Paul a soumis l'idée de... Il manque une aumônière à la prison des femmes. Voilà, je me suis dit, allez hop, on y va. Et donc, j'ai eu le premier agrément par la Fédération protestante. Je n'ai pas le deuxième par le ministère de l'Intérieur. Je l'attends, ça devrait arriver. Donc, je vais pouvoir... parce qu'il n'y a personne à la prison des femmes, à la maison d'arrêt de Nîmes. Donc, oui, on fait un culte. La première fois, je suis ressortie, puis je suis venue ici, puis j'ai fait que pleurer, moi, qui ne suis pas une super pleureuse. C'était hyper touchant, quoi. Voilà, ce qui se présente. Je ne sais pas, ils nous racontent ce qu'ils ont fait, mais ça, ce n'est pas ça l'intérêt. Bien évidemment, c'est de leur amener l'évangile. Alors, le culte est assez particulier avec Franck Messler, qui est l'aumônier principal, et Bernard Angosto, qui est l'autre aumônier. Et puis, il y a un guitariste, et puis une autre dame qui vient de l'église de la Combe des Oiseaux. Et donc, on est une petite équipe à faire un culte une fois par mois. Là, le culte de Pâques, j'avais demandé à Jérémy et Marie de venir chanter. Et puis, donc, ils ne pouvaient pas. Et donc, j'ai demandé à Amish et Charlotte, en disant que c'était un couple qui chantait. Ils m'ont pas demandé s'ils avaient fait un CD. Bref. Et donc, ils étaient un peu... Voilà, mais ils ont prévu de venir chanter. Alors, on a organisé un culte de Pâques un peu différent de, d'habitude. D'habitude, on a toujours... la dernière fois, c'est moi qui ai amené la prédication, mais c'était... c'est, comment vous dire, interactif, c'est pas... en trois points, parce que voilà, il y a un petit peu de difficulté à écouter. Ce sont des gens qui, d'abord, manquent d'une cruelle intimité. Ils sont trois par cellule, avec deux lits et un matelas. Donc, ils ne sont pas tout seuls en cellule. C'est terrible. Il n'y a pas d'intimité. Enfin, imaginons dans 9 mètres carrés, trois. Voilà, c'est très violent, très, très violent. Le fait d'être séparé du monde, bien sûr, de leur famille, de tout ça. Mais le plus dur, c'est ce manque d'intimité. Alors, quand on leur parle d'intimité avec Jésus... C'est pas facile à vivre pour eux. Ils ont une soif absolue. Voilà. C'est juste pour moi une bénédiction. Pour eux, je sais pas, mais pour moi, c'est sûr. On revient, on a l'impression d'avoir rencontré Jésus en direct. C'est très, très fort. Et très simple. Et donc, ce culte de Pâques, pour finir, c'est un culte qui va être avec un petit déjeuner qu'on va leur offrir. Des baguettes, du beurre, du miel, de la confiture. Puis on va se mettre en petit groupe. Parce que le culte, à chaque fois qu'on fait une prédication, il y a un petit groupe. On fait des petits groupes de 4 et on discute ensemble. C'est génial. C'est génial. Parce qu'eux, ils reçoivent la parole. Ils l'ont pour la plupart jamais entendue. Donc, ils la reçoivent brutalement. Voilà, je ne vous dis pas, pour la naissance, Noël, avec Marie et tout ça, qui était enceinte, les réflexions qu'il y a. Mais c'est des réflexions crues, mais il y a une vraie... Un vrai sens, comme dit Paul, une recherche de sens de leur vie. Et très vite, voilà, ils ont soif, donc ils boivent. Et donc, pour Pâques, on va faire un petit déjeuner en discutant sur le lavage des pieds, le lavement des pieds que Jésus a fait, qui est un truc insensé pour nous déjà, mais pour eux, alors, complètement insensé. Et donc, Charlotte et Amish vont chanter passage de discussion, donc on arrivera en retard pour le culte de Pâques ici. Et voilà, juste dire que c'est une vraie opportunité et que c'est c'est un endroit très curieux, très très curieux. Voilà, tout est contrôlé, il n'y a pas assez de surveillants, donc du coup j'y suis allée vendredi matin là pour faire un partage biblique avec l'aumônier, on n'a pas pu. Enfin voilà, c'est quand même un lieu de violence de fait, parce que on ne peut pas se retrouver soi. Voilà. Et que cette histoire d'intimité est compliquée. Je m'arrête parce que je vous en parlerai des heures. Voilà.
Merci beaucoup. Paul. Merci beaucoup et merci Seigneur pour ces ministères hors les murs de l'église locale. Je reviens à l'expérience de Jean-Baptiste, confronté donc à l'injustice, confronté à une situation qui pour lui ne fait pas sens. Confronté à la fatigue, confronté à l'angoisse concernant son avenir. Et si je m'étais trompé? Et si finalement ce n'était pas lui? N'ai-je pas vu la colombe descendre sur lui au jour de son baptême? N'ai-je pas entendu la voix du Père dans le ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le » N'ai-je pas moi-même proclamer que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste est dans une crise spirituelle qui l'épuise et qui vient sonder les fondements de son espérance, de sa foi et de son espérance. Et l'épreuve a ceci de particulier que souvent l'épreuve provoque en nous une sorte de désorganisation. Nos repères vacillent. Nous ne savons plus exactement ce qui est de notre part et ce qui est de la part de Dieu. Notre foi semble être malmenée et parfois même c'est comme si nos appuis s'enfonçaient comme dans du sable mouvant. Et c'est pourquoi l'Écriture, en tout cas, nous rend service ce matin en nous partageant cette situation de Jean-Baptiste pour nous rappeler que même les plus remarquables témoins du Christ comme Jean-Baptiste, peuvent traverser des moments d'épuisement, des moments de confusion, des moments où tout semble vaciller. Et peut-être que ce matin, tu n'es pas en prison, tu n'es peut-être pas isolé socialement, mais qu'il y a une situation de ta vie qui t'isole. Ton plus proche voisin ne peut pas comprendre ce que tu vis ou ce que tu as ou portes en ce moment à l'intérieur de toi. Peut-être à l'intérieur de toi monte une foule de questions sourdes. Je veux te dire ce matin ce qui me semble, en tout cas pour moi, un encouragement à la lecture de ce passage de la vie de Jean-Baptiste. C'est que le service de Dieu ne nous rend pas invulnérables. Et que même les plus grands ont leur temps de fatigue, ont parfois leur traversée de crise. Le service du Seigneur, au contraire, peut nous exposer à davantage de fatigue intérieure. Le service du Seigneur peut soulever en nous des attentes élevées. Le poids des responsabilités nombreuses peut être source de souffrance. La question n'est donc pas de savoir si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu peut vaciller. La Bible nous montre par tant d'exemples, Moïse, épuisé, cela nous a été rappelé par Antoine, n'a à un moment donné perd patience et frappe le rocher deux fois, où il fallait juste parler. Élie, Amish nous l'a prêché il y a quelques semaines, dit « Je n'en peux plus, Seigneur, je suis au bout du rouleau, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. » Jérémie se plaint dans les Lamentations. Y a-t-il une place pour la plainte devant le trône de grâce? La réponse est oui. Ne pas rester seul avec sa souffrance. Ne pas rester dans son fort intérieur isolé et ne pas pouvoir trouver un chemin pour poser sa plainte devant le Christ. Jean-Baptiste n'est pas resté seul avec sa souffrance. Il a trouvé un chemin par la médiation d'amis pour aller poser sa question à Jésus. Est-ce que tu as une question pour Jésus en ce moment de ta vie? Quelle est cette question que tu aimerais adresser à Jésus? La semaine dernière, Marie nous a parlé à partir de l'épisode de la Transfiguration et nous a montré que c'est un texte qui posait parfois plus de questions qu'il n'en répondait. Pourquoi donc est-ce cette question que tu aimerais adresser à Jésus? Qui portera avec toi devant le trône du Christ les questions qui te fatiguent, qui t'épuisent, qui t'angoissent, qui peut-être t'empêchent de dormir? Jésus prend au sérieux toute notre vie. Il prend au sérieux nos émotions, nos joies, nos peines. Nous les vivons coram Deo, devant Dieu. Et il prend tellement au sérieux ce que nous vivons individuellement que Jésus ici s'arrête et reçoit les deux disciples de Jean-Baptiste et il accueille la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Dans la tradition biblique, celui qui doit venir parle du Christ. Dans sa dernière prédication, il y a bientôt un mois, Enzo nous parlait de celui qui doit venir. La foi avant les exploits. Et il citait un texte d'Abacouc et de Hébreu. Et l'expression, c'était celui, il attend jusqu'à ce que celui qui doit venir soit venu. Or, celui qui doit venir, c'est le Messie. Et vous imaginez Jean-Baptiste qui a baptisé et qui a vécu déjà toutes ses expériences spirituelles, poser la question, es-tu celui-là qui doit venir? Alors la question a gêné beaucoup des commentateurs. On s'est dit, mais quand même, on ne peut pas dire que ce témoin de la foi est douté. Alors certains commentateurs, pour, on va dire, esquiver la difficulté, ont proposé que non, Jean-Baptiste, en fait, adresse cette question à travers ses disciples, non pas tant pour lui-même, mais pour que ses disciples, peut-être qui n'étaient pas là, On peut imaginer qu'il y a eu plusieurs successions de disciples et que peut-être ces deux-là n'étaient pas là au moment du baptême, n'avaient pas entendu la voix. Et alors, c'est pour eux, pour les affermis, que Jean-Baptiste dit, allez lui demander lui-même. Et donc, la réponse n'est pas tant pour Jean-Baptiste, mais pour ses disciples-là, une confirmation que Jésus est vraiment le Messie. C'est une manière de dédouaner un peu Jean de l'épreuve du doute. Mais la réalité, c'est que l'Écriture nous montre bien d'autres témoins dans la foi et l'Écriture assume que la vie du disciple peut être traversée par ces questions et par ces nuits spirituelles et par ces crises spirituelles. En fait, l'Écriture ici nous présente Jean dans sa vulnérabilité et dans son humanité. Et il me semble que c'est aussi un enseignement de ce passage. Accepter notre vulnérabilité, accepter notre humanité. La réponse de Jésus est aussi remarquable que la liberté que Jean-Baptiste a exprimée à travers sa question. Vous savez, je fais une parenthèse ici pour dire que les moments de mon cheminement où j'ai le plus grandi spirituellement, c'est lorsqu'il m'a été permis de questionner. Et c'est lorsqu'il m'a été permis même l'impertinence. N'ayons pas peur des questions. Et n'ayons pas peur de l'impertinence. Elle nous fait grandir. Elle nous fait cheminer dans notre propre réflexion. Elle nous déplace. Elle fait de nous des chercheurs du Christ dans des questions de plus en plus complexes. J'ai toujours considéré que l'une des missions de l'Église dans l'accompagnement des enfants et des plus jeunes, c'était de permettre le questionnement et l'impertinence. Heureux celles et ceux qui savent accueillir ces questions qui vous plongent dans une intranquillité. Je fais ici allusion à un livre de Marion Muller-Collard, L'intranquillité. Heureux sommes-nous lorsque nous nous saisissons des situations qui nous plongent dans l'intranquillité et que cette intranquillité nous conduit au Christ. Et alors, le Christ ne répond pas à Jean-Baptiste, « Mais Jean, voyons, on ne te laisse pas aller. Mais Jean, tu t'écoutes assez. » Non, ce n'est pas la réponse de Jésus. Jésus ne dit aucune reproche au sujet de Jean-Baptiste. Jésus répond avec une grande sagesse et avec simplicité. Retournez auprès de Jean. Ça veut dire, je l'ai entendu, je l'ai reçu. Et racontez-lui ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Rien d'autre que les signes que le Messie devait accomplir afin que le monde croie. Il les énumère. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. En fait, c'est comme s'il est en train de dire à Jean-Baptiste, tu vois, le programme annoncé par exemple, Ésaïe est en train de s'accomplir. Ésaïe 63. Et Jésus se montre ici aussi comme celui qui ne va pas éteindre le lumignon qui fume et il ne casse pas le roseau qui se tord. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, Jésus renvoie les disciples de Jean-Baptiste aux faits, aux actes messianiques. Quand le doute, le découragement, la fatigue spirituelle s'installent, reconnaissons que nos perceptions peuvent se brouiller. Nous voyons surtout ce qui ne fonctionne pas. Nous voyons ce qui tarde, ce qui nous échappe. Jésus invite Jean-Baptiste à regarder ce que Dieu est déjà en train de faire, même si cela ne correspond pas tout à fait à la façon dont il avait envisagé ce temps messianique. Je dois vous confier, comme une demande de votre prière humblement, que j'ai besoin, moi aussi, dans mon ministère au quotidien, d'apprendre à voir ce que Dieu fait déjà. Nous sommes une assemblée nombreuse, avec des habitudes prises depuis bien des années, des bonnes, mais également d'autres qui sont à transformer. Et j'avoue que ces derniers temps, j'ai été complètement épuisé par certaines formes d'inertie, de résistance au changement, de difficulté à voir la mise en œuvre des choses que nous décidons. Si vous m'avez côtoyé ces derniers temps, peut-être avez-vous perçu que j'étais constamment en colère et constamment frustré, et disant « mais je ne comprends pas ». J'ai besoin de votre prière là aussi. 2 ans et demi après, On a besoin d'avancer dans les choses que nous avons discernées, dans les choses que le conseil a décidées. On a besoin de bouger. L'Église ne peut pas être à 80% préoccupée uniquement par elle-même, par son fonctionnement. La peur ne peut pas être une raison qui nous paralyse. Ce n'est pas possible. Mais je reconnais que tout n'est pas à moitié vide. Beaucoup de choses, par la grâce de Dieu, sont posées, sont vécues grâce à l'engagement des uns et des autres. Il nous semble que nous sommes tous invités à apprendre, non seulement à voir ce que Jésus fait déjà dans nos vies, ce que Jésus est en train de faire dans notre Église, pour que nous ne sombrions pas dans le découragement. Il me semble que la pédagogie du Christ ici, c'est de dire à Jean, ton ministère a eu un sens. Ton ministère a eu un sens. Peut-être tu n'as pas vu les choses comme ça, mais même si tu es en prison, tu n'es pas oublié et ce n'est pas un échec. Ton ministère a eu un sens. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dira discrètement dans la deuxième partie du message. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau balancé au gré des vents? Une girouette? Non. Un homme vêtu somptueusement? Non. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là dans ce passage? Il est en train de rendre hommage à la foi de Jean-Baptiste. Mais il a attendu que ses disciples partent. Jean-Baptiste peut-être aurait aimé que Jésus lui écrive une lettre en lui disant ça. Un peu comme un éloge posthume, funèbre. Jésus prend acte que Jean-Baptiste ne sortira pas de cette prison. Mais Jésus ne voit pas cette épreuve comme un échec. Et il dit aux autres, ne pensez pas que Jean-Baptiste, par ses questions, par son impertinence peut-être, parce qu'il le vacille, ne pensez pas que cela le disqualifie. Au contraire, de tous les fils nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Seigneur, donne-nous ce regard sur les épreuves de nos vies, sur les échecs qui n'en sont pas, et donne-nous l'humilité de te voir grandir et à nous de diminuer. Et enfin, Jésus termine avec une parole de béatitude, et c'est là que je m'arrêterai. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Ça veut dire que le risque quand même du trébuchement est là, puisque celui qui ne perdra pas la foi, celui qui ne trébuchera pas, heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Dieu n'agit pas toujours selon nos attentes. Ce n'est pas Dieu qui nous scandalise, c'est parfois nos attentes et nos espérances qui nous posent des choses trappes, qui nous font trébucher. Mais entre toi et tes espérances, il y a le Seigneur Jésus. Le découragement, la fatigue, la crise spirituelle n'arrivent pas, j'ai envie de dire, à ceux qui se laissent aller nécessairement, ça peut être le cas, mais ils touchent, nous l'avons vu également, les plus grands. Alors en conclusion, j'aimerais qu'on se rappelle juste trois choses simples, mais vitales, pour nous prévenir de mal vivre les temps de crise, de mal vivre nos frustrations, et je me le rappelle à moi-même. D'abord, premièrement, accepter notre humanité, notre vulnérabilité, comme Jean-Baptiste. Accepter de ne pas rester seul avec nos questions. Ensuite, deuxièmement, apprendre à reconnaître ce que Dieu fait déjà, même les toutes petites choses discrètes, même ce qui nous semble insignifiant. Enfin, troisièmement, garder les yeux fixés sur Jésus plutôt que sur nos attentes de résultats. Jean-Baptiste est en prison, sa foi vacille un instant, mais Jésus ne l'abandonne pas. Et voilà la plus grande consolation peut-être pour chacun de nous qui servons le Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais, c'est sa promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aime comment se termine ce chapitre 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne cherche pas des serviteurs infatigables, parfaits ou inépuisables. Il cherche des hommes et des femmes qui, même dans leurs moments de fatigue, continuer à revenir à lui encore et encore. Et c'est là la béatitude des serviteurs et des servantes heureux, heureuses. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour le témoignage sincère de l'Écriture. Merci parce que tu connais chacun de nous, là où nous en sommes avec toi. Tu connais les questions les plus douloureuses qui sont au cœur de nos vies. Tu connais les épreuves, tu connais les attentes peut-être déçues, les espérances frustrées. Et merci ce matin de nous rappeler que tu nous connais et que tu ne te trompes pas de lecture. Tu lis nos vies et tu vois ton amour et tu vois les œuvres bonnes préparées par le Père et que tu as accomplies. Je te demande la grâce pour chacun de nous d'entrer dans cette vision et dans cette pédagogie du capable de regarder, d'un regard éduqué à voir et à te voir là où tu es agi déjà. Je te prie aussi pour cette génération peut-être plus exposée au désenchantement et au burn-out. Je te prie pour celles et ceux qui traversent cette épreuve. Je te prie pour celles et ceux qui cherchent un sens. Je te prie pour celles et ceux qui vivent une déception, une nuit spirituelle, une crise. Seigneur, merci pour ton cœur qui prend le temps d'écouter et de répondre. Et je prie pour qu'il soit assuré de ta présence et de ton amour indestructible. T'apportons aussi notre monde qui est lui aussi traversé par des crises multiples. Demandons, Seigneur, la grâce de ton intervention. Nous n'avons pas les mots justes, mais tu connais la situation. Et Seigneur, fais concourir cette situation vers une œuvre de salut, vers une œuvre de paix et de réconciliation pour toutes les nations. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.